Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Cette semaine, pour la première fois, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à de la prison ferme. L'été dernier, c'est un ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle, François Fillon, qui prenait encore plus cher, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, j'ai invité un professeur de droit, Bertrand Mathieu, l'auteur de Justice et politique, La déchirure, et la vaticaniste Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, pour comprendre pourquoi le pape François est en Irak, et l'historien Bruno Fellini, parce qu'il a déniché une nouvelle énigme dans l'histoire de France. Son nouveau livre s'intitule « La fille de Napoléon ». Bertrand Mathieu, bonjour. Vous êtes professeur à l'école de droit de la Sorbonne, vous êtes constitutionnaliste, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes l'auteur de Justice et politique, La déchirure, avec un point d'interrogation. C'était paru en 2015 chez LGDJ, l'Extinso oui. Édition. Un ancien président de la République condamné à 1 an de prison ferme, ça a surpris beaucoup de commentateurs. Mais si l'on avait lu votre livre, on était moins surpris. J'imagine que vous n'êtes pas si surpris que ça.
Non, écoutez, je crois que cette condamnation de Nicolas Sarkozy et les réactions qu'elle suscite ne sont en fait que la traduction d'un problème beaucoup plus général, comme vous le dites, qui est celui des rapports entre la justice et la politique. Ce qui est intéressant probablement sur le point sur lequel il faut réfléchir, c'est pourquoi il y a un malaise dans un jugement qui finalement concerne quelqu'un qui est devenu, en théorie, un citoyen comme les autres.
Au fond, on s'aperçoit que les décisions de justice impliquant des hauts responsables politiques se sont multipliées ces dernières années. Il faut se souvenir de Jean-Luc Mélenchon, a pris 3 mois de prison avec sursis pour s'être opposé à la perquisition des locaux de la France Insoumise. François Fillon a pris 5 ans, dont 2 fermes pour emploi fictif. On en conclut que la justice est devenue un véritable concurrent de la politique.
Oui, écoutez, ça je crois que je ne vais pas faire trop longtemps de retour historique, mais en France on a toujours eu des problèmes entre la justice et la politique. J'allais dire, pour remonter à une période qui n'est pas très lointaine, sous la Troisième République, c'était les juges qui étaient soumis aux politiques, et maintenant, on a un retournement de situation. Alors, vous citez toute une série d'affaires, mais en fait, c'est surtout les actes commis par le juge à l'occasion de ces affaires. La condamnation d'un ministre de la Santé dans l'affaire du sang contaminé, où le président Fabius avait été impliqué. L'affaire Lagarde, où la ministre est jugée pour négligence. L'intervention dans une campagne présidentielle, c'est l'affaire Fillon, qui est probablement une des affaires où le lien entre la justice et politique est le plus fort. Des perquisitions au sein d'assemblées parlementaires, la saisie des agendas d'un ancien président de la République dans l'affaire Sarkozy, l'écoute des conversations téléphoniques entre un ancien président de la République et son avocat, l'ouverture d'une information judiciaire contre un garde des Sceaux qui décide de diligenter une inspection concernant des magistrats, des perquisitions dans des ministères concernant la conduite de la politique sanitaire. Les exemples sont extrêmement nombreux d'affaires où le juge va directement intervenir dans ce qu'est le cœur de l'activité politique.
On parle de rééquilibrage. La justice ayant été longtemps bridée par la politique, vous le disiez, de la Troisième République. Est-ce que ce serait ça aujourd'hui?
Ben écoutez, oui et non. Oui, il y a une certaine forme de rééquilibrage à partir du moment où, légitimement, les juges interviennent librement concernant des infractions de droit commun commises par les politiques. Et je pense, par exemple, à des affaires comme celle qui concerne la fraude fiscale, ou l'affaire Cahuzac, ou l'affaire Balkany. Et de ce point de vue-là, les hommes politiques ne sont plus protégés pour les délits de droit commun qu'ils commettent. En revanche, là où se pose le problème, et c'est le cas dans les exemples que je vous ai cités, là où se pose le problème, c'est quand le juge intervient dans le cœur même de l'activité politique. Et là, on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment équilibre, mais qu'il y a, d'une certaine manière, un nouveau déséquilibre.
On verra au fond une espèce, un pouvoir politique en perte d'influence et un pouvoir judiciaire qui monte, mais qui lui sera en mal de légitimité. C'est ce que vous disiez dans votre livre.
C'est exactement ça dans ces affaires. Le problème, c'est qu'on a un phénomène depuis quelques années de pénalisation de la vie politique. Je ne dis pas de pénalisation des hommes politiques, mais de pénalisation de la vie politique et de la vie sociale, d'ailleurs, plus largement. Ce mouvement s'accompagne d'un, ou s'insère dans un contexte où la responsabilité politique ne joue plus. Dans toutes les affaires que je vous ai, qu'on a citées, on pourrait penser que les hommes politiques sont responsables, soit devant le Parlement s'ils sont des ministres, soit devant le peuple s'ils sont des élus du peuple. En fait, on voit que ce mécanisme de responsabilité politique ne joue presque plus. On n'a plus, mais c'est pas propre à la France, on n'a quasiment plus d'hypothèse où un gouvernement est renversé par le Parlement, et d'autre part, cette soupape que pouvait constituer le référendum ne joue quasiment plus. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est le juge qui prend en réalité la place de ces autorités démocratiques, et c'est devant le juge que la responsabilité politique s'exerce, ce qui est incontestablement une déformation de la logique de nos systèmes démocratiques.
Au fond, longtemps, les politiques ont brandi leur légitimité élective pour se tenir hors de portée de la justice. Aujourd'hui, ce serait le tour des juges de vouloir s'émanciper des politiques.
Oui, tout à fait. Et alors, le terme que vous utilisez est le terme très juste, c'est un problème de légitimité. Et le problème de légitimité, il se pose également pour les juges. En fait, quelle est la légitimité du juge ? La légitimité du juge, c'est d'être un tiers impartial. Et ce qui complique un petit peu la situation, c'est que, non pas tous les juges, loin de là, mais quelques juges sont eux-mêmes, et c'est un deuxième phénomène qui complique encore les choses, sont eux-mêmes engagés, j'allais dire, dans la vie politique ou prennent des positions politiques. C'est d'ailleurs là qu'il y a un problème manifeste avec l'affaire Sarkozy, c'est pas la problème de la partialité des juges qui ont rendu la décision, mais c'est le fait qu'un certain nombre de syndicats de magistrats sont intervenus, notamment pour critiquer l'action du président de la République, voire même pour combattre sa réélection. Et là, on a un contexte qui est un contexte de partialité. Et ça pose véritablement un problème, j'allais dire, quant à l'impression de légitimité que donne l'action des juges.
Et puis il y a le parquet qui voudrait être totalement indépendant, mais ça on en parle juste après une pause, Bertrand Mathieu.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Bertrand Mathieu, l'auteur de « Justice et politique, les déchirures » avec un point d'interrogation. C'est paru en 2015 chez LGDJ, l'Extinso édition, mais c'est tout à fait d'actualité. Je parlais du parquet qui voudrait être totalement indépendant. Or, il est l'instrument de la politique pénale de la nation, donc du gouvernement. Est-ce qu'on peut souhaiter des producteurs qui n'en feraient qu'à leur tête, selon leurs idées personnelles de ce qu'est l'intérêt général, s'ils conduisent la politique pénale de façon autonome, les procureurs prennent la place du gouvernement.
Écoutez, oui, le problème, c'est que d'abord, dans la logique de la séparation des pouvoirs, qu'on pourrait faire remonter à Montesquieu, il n'y a pas de pouvoir autonome. Et je crois qu'on fait une grave confusion en confondant l'indépendance des juges, qui est une exigence constitutionnelle, et l'autonomie de la justice. En effet, comme vous le dites, le gouvernement, et c'est la logique du système parlementaire, le gouvernement est responsable de la politique qu'il conduit devant le Parlement, et notamment, il est responsable de la politique pénale. La politique pénale, elle est définie par le gouvernement et le président de la République, incidemment. Le problème d'un parquet indépendant pourrait conduire non seulement à remettre en cause ce principe de responsabilité politique, mais aussi à ce qui existe dans certains pays, comme par exemple l'Italie, où vous avez des politiques pénales qui sont conduites différemment dans chaque région en fonction des centres d'intérêt ou des préoccupations du procureur général qui est à la tête du parquet de cette région. Et ça serait non seulement un problème de légitimité, non seulement un problème de responsabilité, mais aussi un problème d'unité de la politique pénale conduite. Je vais me permettre de prendre un deuxième exemple où on voit que le système ne fonctionne pas si bien que ça. C'est, par exemple, beaucoup plus concret et présent, c'est l'intervention du parquet financier dans les affaires Fillon et Sarkozy. Le parquet financier a sa propre légitimité, c'est d'être saisi ou de se saisir pour les affaires financières d'une particulière difficulté et qui ont un rayonnement national. Or, ni dans l'affaire Fillon, ni dans l'affaire Sarkozy, on était confronté à une affaire financière d'une particulière gravité. Savoir si Madame Fillon avait ou non correctement rempli sa fonction d'assistant parlementaire ne relève pas d'un problème financier extrêmement complexe, pas plus que le problème de savoir si Monsieur Sarkozy aurait pu ou pas recommander un magistrat au ministre d'État à Monaco. Et là, il y avait véritablement une dérive. Et cette dérive, ces dérives, elles peuvent être aussi renforcées par une justice et un parquet qui deviendraient totalement autonomes, hors de tout contrôle extérieur.
Quand on prend ce que l'on reproche à Nicolas Sarkozy ou à François Fillon ou à Jean-Luc Mélenchon, je le citais tout à l'heure, qui lui aussi a été condamné à 3 mois de prison, mais lui avec sursis, on s'aperçoit qu'au fond c'est beaucoup moins grave que les scandales de la Troisième République, le scandale de Panama, l'affaire des fiches, l'affaire Dreyfus, l'affaire Stavisky. C'était beaucoup plus grave ce qu'avaient fait les ministres, les membres du gouvernement à l'époque, mais on a l'impression du contraire. On a l'impression du contraire parce qu'au fond nos hommes politiques aujourd'hui sont plus surveillés et que surtout ils sont condamnés plus sévèrement.
Oui, il y a une exigence. Il y a à la fois une exigence de moralité plus grande. Il y a à la fois un renforcement considérable des pouvoirs des juges. Mais comme vous le dites, il y a une disproportion totale entre les délits qui ont pu être commis et ceux qui sont jugés aujourd'hui. Et ça pose un autre problème qui est en fait, si on prend l'exemple de Nicolas Sarkozy, assez paradoxal. L'idée, c'est de dire finalement. Un ancien président de la République, c'est injusticiable comme les autres. Et c'est un peu l'idée de la responsabilité du président de la République qui, après son mandat, devient un citoyen comme les autres. Mais d'un autre côté, on le juge avec une sévérité particulière et surtout, avec des moyens absolument extraordinaires. Parce que la procédure qui a été suivie à l'encontre de Nicolas Sarkozy pour un délit suspecté qui n'est pas en lui-même d'une extraordinaire gravité, même si les faits, s'ils étaient avérés, seraient condamnables, la procédure suivie est absolument extraordinaire, notamment, comme je le disais, l'intervention du parquet financier ou les écoutes des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat. On a donc une justice d'exception, d'une certaine manière.
Mais la perte d'influence du pouvoir politique, est-ce que le pouvoir politique n'en est pas lui-même responsable ? Ce sont souvent les politiques qui s'en sont remis au juge, comme s'ils refusaient de prendre certaines décisions. Et au fond, serait la démission des politiques, que ce serait constitué le pouvoir des juges.
Vous avez tout à fait raison. Et cette démission des politiques, en fait, elle se produit de plusieurs manières. D'une part, mais c'est un problème un peu complexe, mais qui est en fait très important, c'est que le pouvoir normatif est très souvent entre les mains des juges. J'allais dire, une loi, un règlement, peut être très facilement écarté par un juge dans n'importe quel contentieux, ce qui fait qu'il y a une soumission de plus en plus forte du pouvoir politique aux juges. D'autre part, les politiques se défaussent très largement sur les juges, c'est-à-dire que souvent ils votent des textes relativement imprécis qui vont laisser aux juges une très forte marge d'appréciation. D'autre part, les politiques renforcent considérablement la pénalisation de la vie sociale et politique avec des exigences de transparence qui sont bonnes en soi mais qui peuvent être excessives, ce qui renforce le pouvoir des juges. Et d'autre part, le mécanisme de responsabilité politique ne fonctionne plus, ce qui est véritablement un problème. Si les juges interviennent dans les questions de responsabilité, c'est parce que les politiques ne font pas leur travail. La démocratie, elle exige des mécanismes de responsabilité. Et d'ailleurs, ça renverrait à une autre question qui est celle de la responsabilité des juges.
Mais Bertrand Mathieu, dernière question. Tout pouvoir doit être limité par un autre pouvoir. On est tous d'accord là-dessus. C'est la base de la démocratie. Alors comment faire pour que ces deux pouvoirs-là s'équilibrent et qu'on n'ait plus constamment l'impression que l'un l'emporte sur l'autre ?
Bah, écoutez, ce qui serait très facile à dire, c'est qu'il faudrait que les politiques respectent les décisions de justice et que les juges respectent les décisions politiques. Ce que je crois, c'est qu'il faut dresser pour l'instant un certain nombre de paravents. Je prendrai un exemple simple, mais on ne peut pas, dans le temps qui est imparti, tout traiter. Il faudrait deux choses, par exemple, qu'il y ait un véritable mécanisme de responsabilité des juges. Le président de la République a lancé le débat, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Et puis, par exemple, regardez, un juge peut intervenir pour faire une perquisition à l'Assemblée nationale de manière totalement libre, alors que s'il perquisitionne un cabinet d'avocat, il faut l'accord du bâtonnier. On peut imaginer, là aussi, des filtres entre le juge et l'intervention dans le domaine politique.
Merci Bertrand Mathieu d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1. Justice et politique, merci. La déchirure, c'est paru chez LGDJ, l'Extinso édition. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Caroline Pigozzi. On va parler du pape François en Irak.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Caroline Pigozzi, vous êtes
bonjour.
Grand reporter à Paris Match. Depuis l'élection du pape François en 2013, vous l'avez accompagné dans combien 28 pays déjà hein
28 pays,
et
oui.
Et combien de fois vous êtes-vous entretenu avec lui?
Ben, à chaque fois, j'oserais le dire, parce que depuis le premier voyage, première visite, je l'avais vu avant, parce que j'avais été invité à sa messe avant, parce qu'il y avait un jésuite qui est mort depuis, qui s'appelait Padre Tucci, qui m'aimait beaucoup et qui m'avait confié à lui. Il avait dit, il faut que tu t'en occupes.
Quand vous n'allez pas en Irak avec lui, il y est arrivé hier, est-ce qu'il le regrette? Est-ce que vous lui manquez?
Écoutez, ça serait très prétentieux de dire que je lui manque, mais il aime bien que je sois dans son paysage. Et quand je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer par courtoisie que je n'avais pas pu venir parce que je n'avais pas les deux vaccins, et que c'est compliqué pour les vaticanistes qui sont en France... Et il m'a envoyé un mot charmant en disant que ça l'attristait, qu'il espérait que je serais du prochain voyage. Ça m'a réchauffé le cœur néanmoins, mais mon cœur bat encore plus fort parce que je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit.
Vous avez publié au Cherche Midi « François en poche », c'est un recueil de ses déclarations les plus profondes.
Qu'il a préfacé,
puisque vous le connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il fait actuellement en Irak, d'après vous?
Bon, d'abord, il y a une phrase qu'il dit, qui est toujours impressionnante, dite par un pape. Souvent, il dit « Mi viene da piangere ». J'ai les larmes aux yeux. Et pour lui, ce n'est pas juste un état de fait, l'histoire des chrétiens d'Orient. C'est un vrai drame, et un drame dont il a l'impression qu'il ne peut pas... Où il pense qu'il ne peut pas jouer un grand rôle. Alors, il y va parce que c'est son devoir et parce qu'il veut marteler... Enfin, il veut être proche de ces gens-là, il veut quand même leur témoigner de leur courage, de son admiration pour eux. Le pape Jean-Paul II n'a pas pu y aller, mais au fond de lui, il sait que c'est très compliqué, qu'il ne suffit pas de la parole divine d'un pape, et qu'un pape, c'est comme en théorie un chef d'État, il devrait être au-dessus des partis, donc lui, il est au-dessus des querelles, il est au-dessus des problèmes religieux, il se situe au-delà. Et il espère que sa parole pourra servir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa parole a un écho, est un relais. Qu'en plus, maintenant, il y a un président américain qui est catholique.
Oui, ce n'était pas arrivé depuis John Kennedy.
C'est le deuxième président américain catholique, lui aussi d'origine irlandaise. Et bon, il va aller le voir, je crois, quand il fera sa grande tournée. Et il pense que ça aura un écho... de par le monde et notamment aux États-Unis.
On a l'impression que ce pape, ce qui l'intéresse, ce sont les pays pauvres ou les pays blessés par la guerre, j'entends, comme la Bosnie, la Palestine, la Colombie, la Géorgie. Et bien entendu, l'Irak aujourd'hui, pays détruit par 40 ans de guerre. Ça a commencé avec la guerre Irak-Iran en 1980 et ça ne s'est pratiquement jamais arrêté depuis.
Oui, parce qu'il se dit qu'un pape, ce n'est pas juste fait pour faire de la figuration intelligente et être l'homme blanc le plus connu au monde, c'est fait pour servir à quelque chose. Et en l'occurrence, il considère que ce n'est pas du tout un pape bourgeois. Et il considère que, bon, il y a des tas de pays qui n'ont pas besoin de lui, que s'il va en France, les catholiques seront contents, mais enfin, ça fera rien avancer ni reculer. Et que il veut aller dans des pays qui servent à quelque chose et des pays qui sont souvent en périphérie ou. Il pense qu'il peut donner de l'espoir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est jésuite, que les jésuites sont des missionnaires, qu'au XVIIe siècle, ils allaient en Chine, au Japon, en Amérique latine un peu plus tard, et que C'est un missionnaire, il est missionnaire et il est profondément jésuite et il est latino-américain, c'est-à-dire que le centre de gravité pour lui n'est pas le même que pour nous, Français.
Caroline Pigozzi, ce pape François, il a déjà complètement bouleversé le collège des électeurs du futur pape. Hein. Plus de la moitié
il a redessiné.
A été nommé par François Ier. Il est en train de façonner l'avenir de l'Église à sa main. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne sera pas européenne. Italienne encore moins et française pas du tout.
Non, mais il crée des cardinaux aux périphéries. Moi, je me souviens d'une chose très amusante. Quand il avait créé cardinal Lamberti, cardinal français, ça c'était encore au début de son pontificat. Il était obligé parce qu'il était à la secrétaire d'État et traditionnellement le cardinal est à la section étrangère de la secrétaire d'État. Enfin, l'évêque devient cardinal. Et il était très mauvaise humeur, il lui a mis sa barrette en lui enfonçant. Quand on revoit le film, c'est très amusant, mais comme ça, avec un œil très sombre. Et après ça, il y avait le cardinal du Vanuatu, dont il voyait la famille. Ils étaient jetés à côté d'eux, elles étaient dans des femmes, dans des petites jupettes, des petits pagnes, enfin, vous savez, locaux. Et il était tout à coup serein, il a explosé de joie, on sentait que ce n'était plus le même homme. Si on faisait les deux photos, ça n'avait rien à voir.
Il y a deux papes depuis 8 ans hein, au Vatican. Benoît XVI vit au Vatican. Quelles sont les conséquences de cette cohabitation sans précédent? Ils sont loin d'être d'accord sur les homosexuels, l'ordination des hommes mariés, les migrants, le divorce et le remariage. L'un est un progressiste, l'autre un conservateur. Et il y a encore beaucoup de partisans qui tirent à boulet rouge sur le successeur de Benoît XVI.
Oui, parce que vous savez, vous connaissez bien ce principe divisé pour régner, donc chacun essaye d'en profiter, de se glisser au milieu de ça. Sauf qu'eux sont beaucoup plus intelligents que ça, à savoir que Benoît XVI est un homme extrêmement respectueux, très gentil, très doux, et qui veut en aucun cas déranger la politique du pape, c'est sa règle. Et il est sorti de la papauté, c'est pas pour y sauter dedans à pieds joints, il joue du piano, il peut plus déchiffrer une nouvelle partition parce qu'il voit très mal, mais il a une vie sereine, il prie, il reçoit quelques visites.
Lui qui est à la manœuvre alors, Canto.
Pas du tout. Il a eu un gros choc quand son frère est mort il y a quelques mois. Qui est à la manœuvre? Il y a quelques cardinaux qui sont autour de lui qui parlent en son nom. Il est obligé d'ailleurs de rectifier après.
Et le film Les Deux Papes, produit par Netflix en 2018, qui montre un Benoît XVI, interprété par Anthony Hopkins d'ailleurs, convaincre François de devenir son successeur. Il l'aurait choisi, il l'aurait fait élire. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans?
C'est une fiction géniale parce que c'est un jeu d'acteurs extraordinaires dans un décor magnifique et avec des... Mais bon, c'est un peu de la papa-fiction, je dirais. C'est pas vrai du tout. Ils n'avaient pas de complicité parce qu'ils se connaissaient très peu. Vous voyez, ils n'étaient pas, comme vous dites, ils n'étaient pas dans la même philosophie, dans la même logique.
Ce que montrait le film aussi, hein. Il montrait bien qu'ils ne se connaissaient pas, mais que l'un avait choisi l'autre. Il ne l'a pas choisi. Benoît XVI n'a pas choisi
François.
Non,
je n'irais pas dire ça. Et je crois que Benoît XVI, surtout, il avait une dépression, il était très mal. Il n'était pas du tout dans cette idée de choisir un pape. Il essayait de survivre et de surmonter ce qui lui arrivait avec une honnêteté absolue, puisqu'il est parti en considérant qu'il ne pouvait plus exercer sa mission pastorale.
Merci Caroline Pigozzi. François en poche, votre recueil des déclarations du pape avec une préface du pape François. C'est paru au Cherche Midi. On se retrouve dans un instant avec l'historien Bruno Fulini. Il va nous parler de la fille de Napoléon.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, Bruno Fulini, vous nous faites part d'une nouvelle énigme de l'histoire de France, oubliée depuis le 19e siècle. Vous venez de publier en effet « La fille de Napoléon » aux éditions Les Arènes. Alors comment êtes-vous retombé sur le dossier de cette fille putative de Napoléon ?
En fait, c'est un dossier de documents, d'archives, de notes de police, qui était tout simplement à vendre. Il y a un marché du manuscrit historique avec des experts, des marchands, tout ça est parfaitement légal. Et donc, je suis attentif à ce qui passe sur ce marché parce qu'il y a parfois des documents intéressants. Généralement, c'est des documents qu'on achète à l'unité, une lettre de tel personnage à tel ministre, ce genre de choses. Et là, c'était un ensemble de documents sur 2 ans relatifs à une certaine Charlotte Chapuis, se disant fille naturelle de l'empereur. Alors évidemment, ça a titillé ma curiosité et j'ai acheté ce dossier immédiatement. Et puis après, j'ai commencé à travailler dessus. Et ça m'a amené assez loin, car c'était il y a déjà 7 ans que j'avais cette acquisition. C'est un dossier assez conséquent, 100 de pages manuscrites. Et ce dossier m'a mis sur la piste d'une oubliée de l'histoire, Charlotte Chapuis, qui a été arrêtée, enfermée, mise au secret, parce qu'elle se disait fille naturelle de Napoléon.
Alors, elle surgit l'été 1815, juste après Waterloo. Elle a 20 ans, au milieu des soldats autrichiens qui occupent la France. Charlotte Chapuis dit immédiatement qu'elle est la fille de Napoléon. Alors, elle est née quand et de qui et pourquoi les Autrichiens ?
Les Autrichiens, c'est assez astucieux, puisque la deuxième femme de Napoléon, Marie-Louise, est archiduchesse d'Autriche. Elle et l'Aiglon sont chez les Autrichiens, donc par opposition aux Prussiens, aux Russes, qui ont juré d'anéantir les Bonaparte et l'Empire de Napoléon. Les Autrichiens sont un petit peu de la famille. Par ailleurs, elle a peur sans doute d'être éliminée aussi par les royalistes français, puisque dans les fourgons de ces armées étrangères qui envahissent la France, il y a Louis XVIII et les royalistes et les ultra-royalistes qu'on soupçonne de vouloir rétablir la France d'avant 1789. Donc elle a peur, tout simplement, elle se réfugie auprès des Autrichiens et elle leur explique ceci, elle est la fille d'une certaine Antoinette Catin, je n'invente rien, épouse Chapuis, d'où son nom, et cette Antoinette Catin aurait connu Bonaparte, connu au sens biblique du terme, alors que Bonaparte était encore un jeune officier en garnison en Bourgogne, du côté d'Auxonne, ce qui ferait d'elle, effectivement, la fille aînée, le premier enfant de Napoléon Bonaparte, puisqu'elle est née, ça on en a la certitude, j'ai retrouvé les documents d'état civil, elle est née le 22 août 1795, elle a donc 20 ans à l'été 1815, quand s'effondre l'Empire. Napoléon est aux mains des Anglais, il va partir à Sainte-Hélène, mais tout à coup, dans l'est de la France, car c'est devant Besançon qu'elle se livre, apparaît une sorte d'héritière.
Pourquoi n'est-elle pas venue avant ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de prendre contact avec son père ?
Alors là, on en est réduit aux hypothèses, le dossier ne nous le dit pas. D'abord, on peut penser qu'elle n'a su qu'assez tardivement cette ascendance. C'est forcément une confidence de sa mère. Certains documents du dossier laissent penser que sa mère était un peu une fille à soldat, voire une fille publique. Donc elle a pu fréquenter de nombreux officiers. Et puis c'est rétrospectivement qu'elle s'est rendue compte que l'un d'eux, ce Corse un petit peu caractéristique, un peu détonnant en Bourgogne, eh bien avait fait son chemin. Après, à partir
sachant
de...
qu'il y était vraiment.
Il y était vraiment. Oui, ça c'est tout à fait historique. Il a beaucoup traîné en Bourgogne. En particulier, il a été en garnison à Auxonne, mais il n'y est plus 9 mois avant la naissance de Charlotte. Donc il y a des circonstances plus compliquées que cela pour établir vraiment une conception et une ascendance napoléonienne. Néanmoins, ça n'est pas complètement exclu.
Alors comment les Français réagissent-ils ? Parce qu'il y a comme ministre de la police à ce moment-là Fouché, qui était déjà ministre de la police sous Napoléon. Il a des oreilles partout. Là, il y a une sorte d'informateur, d'agent secret dont vous ne connaissez pas le nom. Il signe ses lettres Mutinus. Vous avez les lettres, mais vous n'avez pas l'identité de l'agent. Et immédiatement, ils vont la mettre au secret. Hein, comme vous le disiez, c'est le cachot direct.
C'est le cachot, donc ce Mutinus dont on ne connaît pas la véritable identité, mais c'est tout à fait classique dans la police secrète et dans les services secrets aujourd'hui encore. Hein. Les sources ou les agents clandestins ont un pseudonyme et c'est justement fait pour qu'on ne puisse pas les identifier. À partir du moment où Mutinus a donné ses informations à Fouché, informations qui vont ensuite passer à son successeur, le duc de Cazes, Charlotte est arrêtée, emprisonnée, mais pas du tout emprisonnée en vertu d'une décision de justice. C'est vraiment une arrestation, une détention totalement arbitraire, elle est coupée du monde, dans une cellule, seule. Elle essaye de correspondre avec l'extérieur, mais ses lettres sont interceptées et elles sont dans le dossier. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai les lettres de Charlotte enfermée qui essaye de donner des nouvelles et nous renseigne, nous, aujourd'hui, sur sa situation à ce moment-là.
Ne bougez pas, Bruno Fuligny, on se retrouve dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Bruno Fulini qui publie La fille de Napoléon aux éditions Les Arènes. Alors, des enfants naturels, Napoléon en a eu plusieurs. Il y a eu Alexandre Walewski, le fils de Marie Walewska, qu'on appelait sa fiancée ou sa femme polonaise. Il y a le comte Léon. Il a aussi des frères, Napoléon, qui ont des enfants. Il a donc des neveux. Mais au moment où tout cela se produit, en 1815, ce sont tous des enfants. Certains, d'ailleurs, ne sont pas en France. La fille de Napoléon, si c'est bien la fille de Napoléon, elle est la seule, à ce moment-là, qui est là, hein, ce qui est sur le marché.
Oui, d'abord, c'est l'aînée. Par ailleurs, à 20 ans, c'est une jeune femme qui pourrait donc elle-même, assez rapidement, donner naissance à un fils. Et c'est ça qui pourrait être inquiétant d'un point de vue dynastique, d'un point de vue politique, car dans l'ordre de succession, il n'est pas prévu que des femmes montent sur le trône, sauf le cas d'une régence de la mère pour son fils. Alors au départ, c'était prévu pour Marie-Louise et l'Aiglon en cas de malheur durant la campagne de Russie, sauf que ce texte existe. Et donc, on a un petit peu peur, car quand Charlotte Chapuis est en liberté, dans l'Est de la France, elle attire non seulement des curieux, mais des bonapartistes, des nostalgiques de la Révolution et de l'Empire. Autour d'elle se crée une petite cour, un petit foyer de subversion. Et il faut bien voir qu'en 1815, le pouvoir du roi Louis XVIII est extrêmement fragile. C'est un roi qui est impopulaire, on craint les intentions des royalistes, il est arrivé avec les armées étrangères. Bref, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Donc on ne prend pas de risque et cette Bonaparte un petit peu par raccro, cette Bonaparte de la main gauche, on la met au frais dans une cellule pendant des mois.
Et elle va rester effectivement au cachot. Alors elle semble avoir été très jolie, hein, cette jeune femme, puisqu'elle s'attire des sympathies, des complicités constamment. Beaucoup de gens veulent l'épouser. Elle va finir par, on ne va pas raconter tous les rebondissements, ils sont dans votre livre, mais elle va finir par se marier en Suisse, au grand désespoir de la famille du marié. D'ailleurs, ils sont obligés d'aller se cacher. Parce qu'elle a l'air d'une aventurière quand même, hein, il faut bien le reconnaître. Et elle va fonder une famille avec Jacob Müller, une grande famille fortunée. Ils vont être maîtres de forge. Hein. Elle sait se débrouiller. C'est une femme d'affaires.
C'est une femme très avisée, très intelligente. Les lettres montrent qu'elle est cultivée, qu'elle a à la fois une grande sensibilité, une bonne connaissance de la littérature et de l'histoire. Elle a du charme, elle a aussi du cran, du courage. Elle est astucieuse, elle a beaucoup de qualités. Y compris les qualités qu'on pourrait retrouver chez son père putatif. Et donc, effectivement, elle finit par sortir du cachot contre la promesse d'épouser un obscur cousin. Elle fausse immédiatement compagnie au cousin pour séduire un riche maître de forge qui l'enlève, vous l'avez dit, qui l'épouse en Suisse. Et elle va devenir, du coup, une des femmes les plus riches de l'Est de la France. Puis, comme ce monsieur est plus âgé qu'elle, plus tard, elle deviendra veuve, elle deviendra maîtresse de forge, c'est-à-dire une des très rares femmes qui dirige un établissement industriel au début du 19e siècle. Et d'après des témoignages de l'époque, lorsqu'elle entre dans ces établissements, 2 à 300 ouvriers s'exclament « Vive l'empereur !» lorsqu'ils la voient. Quelle scène extraordinaire. Et elle va
elle
donner...
Tient une belle revanche, pardon de vous interrompre, mais elle tient une belle revanche. En 1848, quand Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu, se présente à l'élection présidentielle, un de ses agents lui demande son soutien à Charlotte.
Oui, là, la jonction se fait entre le prétendant officiel, Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui va être élu président de la République, qui ensuite, à la faveur d'un coup d'État, prendra le pouvoir, le futur Napoléon III, et puis cette famille un petit peu clandestine, hein, donc Charlotte Chapuis épouse Müller, et puis ses enfants, et elle va soutenir clairement Louis-Napoléon Bonaparte dans ses intentions politiques. Elle renonce à toute prétention dynastique. En revanche, elle va obtenir que l'un de ses fils puisse faire une carrière politique, et donc son fils Adrien Müller sera maire, conseiller général de Champagnol, et plus tard sous la République, il tentera même de devenir député. Donc il y a l'ébauche d'une dynastie, là aussi, de notable.
Dans votre livre, vous avez retrouvé les descendants de Charlotte, et donc d'Adrien Müller. Il y a non seulement un portrait de Charlotte, où on peut trouver qu'elle ressemble, d'ailleurs, aux femmes Bonaparte. Bon, peu importe, on a sûrement un biais qui nous donne envie de trouver une ressemblance, mais lui pose en photo avec la main dans le gilet, à la manière de Napoléon Bonaparte. Au fond, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire une étude ADN qui prouverait ou pas, même si ça n'a pas beaucoup de conséquences hein, sur la vie actuelle, qui prouverait ou pas qu'elle était la fille de Napoléon? Est-ce que ce serait possible?
Alors, j'ai interrogé un généticien dont le métier est précisément d'établir des identités ou des liens de filiation, y compris sur des corps. C'est assez compliqué dans la mesure où on ne peut pas procéder à partir de l'ADN des descendants, qui est trop dilué, c'est trop lointain, des descendants actuels. En fait, il faudrait ouvrir d'une part le cercueil de Charlotte Chapuis, qui existe toujours, hein, qui est à Champagnole, dans le Jura. Pour cela, il faut l'autorisation du maire et de tous les descendants. D'autre part, il faudrait le comparer, son ADN, qu'on prélèverait ainsi, à celui de Napoléon. Ça veut dire soit ouvrir le tombeau qui est aux Invalides. Donc là, ça suppose une autorisation du ministère des Armées qui, pour le moment, s'est toujours opposé à des demandes de ce type, soit utiliser d'autres reliques qui existent, mais dont la provenance n'est pas sûre. Il y a une dent, des morceaux de peau, etc., qui circulent, mais il y a eu un tel commerce des reliques napoléoniennes au XIXe siècle, il y a toujours un doute sur ces vestiges-là. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Il ne faut pas oublier par ailleurs que c'est une fille, c'est-à-dire qu'on connaît le chromosome Y de Napoléon, ça on le connaît avec certitude, mais le chromosome Y ne se transmet que par lignée masculine. Donc là, on est sur un cas de figure plus compliqué, techniquement plus difficile à établir.
Alors dernière question, Bruno Fulini, vous en pensez quoi ?
Pendant 6 ans, j'ai travaillé sur ce dossier avec l'idée que c'était une belle histoire d'imposture. Et j'étais vraiment parti sur cette hypothèse facile, d'autant qu'en 1815, il y a beaucoup d'imposteurs de tous les côtés, compte tenu du désordre. C'est lorsque j'ai établi le contact avec les descendants actuels que j'ai été troublé. Troublé par le tableau que vous évoquiez, parce que la ressemblance est quand même très, très frappante. Troublée par d'autres documents qui étaient conservés par la famille. Il se trouve que Charlotte Chapuis a été soutenue par le général Delors, qui est même devenu le filleul de son fils Adrien. Or, Delors, c'est un des généraux dont le nom est gravé sur l'Arc de Triomphe, quelqu'un qui a personnellement connu l'empereur et qui clairement a reconnu en Charlotte la fille de Napoléon. Donc il y a un certain nombre d'éléments et je ne résiste pas au plaisir de mentionner que sur son cercueil à Champagnole, il y a des abeilles impériales qui ont été dessinées pour décorer le cercueil.
Merci Bruno Fulini. La fille de Napoléon, ça vient de paraître aux Arènes.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h avec la journaliste d'investigation Florence de Changy. Depuis 6 ans, elle enquête sur la disparition du vol MH70 de la Malaysian Airlines, la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation. Grâce à elle, on va enfin savoir ce qui s'est passé. Oui, après le flash de 10h, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Sébastien, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. On va se demander si la justice est politisée ou si les puissants sont des justiciables comme les autres après la condamnation de Nicolas Sarkozy. On se demandera aussi s'il faut se rendre obligatoire la vaccination pour les soignants. Et puis on parlera des ambitions d'Anne Hidalgo pour 2022.
Merci Sébastien, bonne émission.